I can do that if you like, or you can.
Oh, yeah. Do
is this on? Anybody hear me?
Allô, allô, vous m'entendez? Cela ne semble pas être le cas puisque vous continuez de parler.
Allô?
Welcome everyone. Soyez les bienvenus à cette réunion d'ENESSEC pour tout le monde, manuel pour débutants. Je vous invite à venir nous rejoindre ici à la table en U pour participer à cette merveilleuse activité d'aujourd'hui. Croyez-moi, ça va être très intéressant. N'hésitez pas à venir ici à l'avant, autour de cette table. J'essaie de régler un problème avec la caméra, mais ce que l'on va faire, c'est commencer avec la première partie et je vais résoudre ce problème de diapo, mais on va commencer.
I don't know. T's not a number. T's a drink.
But it looks like the letter T. Should I be using a different one? I don't see that.
Oh. No, it also says... Oh, it might be a one.
One? That might make sense. Oh, there we go.
There we go.
Bravo. Why don't we just get started?
Okay. So, hi everyone.
Nous y voilà. Bonjour à tous. On va commencer. Et on va filmer avec la caméra, c'est ce que nous aimerions faire, mais nous avons un problème technique, c'est ce qu'on est en train d'essayer de résoudre. Donc ce problème de caméra n'a rien à voir avec le DNSSEC, donc vous êtes ici à la réunion du DNSSEC, manuel pour débutants. Cet intitulé peut être intimidant, c'est complexe, technique, il y a beaucoup de jargon. Donc on ne va pas faire de vous des experts du DNSSEC, mais on va vous donner une introduction générale au DNSSEC pour que vous ayez une idée du jargon et que vous ne soyez pas surpris. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter certains des intervenants qui sont à côté de moi. Russ Mundy, qui est l'un des experts scientifiques des réseaux de Parsons. Il a participé à nos travaux depuis longtemps, aux ateliers de travail. À côté de lui, Roy Ahrens. Roy est chercheur à Nominet.uk, le registre.uk. Il a créé beaucoup des outils DNS. À côté de lui, Julie. On me demande de parler plus fort. Ça va mieux comme ça? Vous pouvez m'entendre? Bien, donc à côté, Julie. Julie nous aide à organiser tout cela. À côté, Norm, directeur des services DNS. Il me manque Jacques, qui travaille pour Sierra, le registre.cr. À côté, normalement, Divo, mais on ne sait pas où il est. Donc, combien de personnes ici présentes dans la salle en connaissent un peu au sujet du DNS? Bien. Qui en sait un peu plus sur le DNSSEC? Très bien. Malheureusement, je dois vous dire que tout ce que vous savez à propos de l'histoire du DNSSEC est probablement faux. Vous pensez que ça a été inventé il y a 10-15 ans. En fait, ça a été inventé il y a près de 7000 ans. Et ça a été inventé par des hommes de la préhistoire. Sewena, qui était donc une femme préhistorique. Vous voyez un autre inventeur, Og, qui vivait de l'autre côté du Grand Canyon. Et ils avaient quelque chose entre eux. Appelons-le comme ça. Donc, il y a beaucoup d'espace autour du Grand Canyon. Donc, ils ne se voyaient pas aussi souvent qu'ils l'auraient souhaité. Mais lors de leur rare rencontre, ils se sont regardés dans les yeux et ils ont vu quelque chose qui sortait de ce feu. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser le feu pour communiquer entre eux. Donc ils s'envoyaient des messages d'intérêt pour le déjeuner, etc. Puis un jour, Kominsky pense que c'est bon, que c'est intéressant d'envoyer des messages aléatoires entre leurs messages. Donc il va dire à Kamina à quel point il l'aime, et il envoie des messages aléatoires à propos des bananes, par exemple. Et Peregrina ne comprend plus rien. Elle ne sait plus quel est le vrai message et quels sont les messages inventés et envoyés par Kominsky. Donc, elle s'énerve. Elle traverse le Grand Canyon. Après une traversée de 3 jours, elle remonte le chemin et ils essaient de voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour résoudre cette situation. Donc, ils vont voir les anciens et voir ce qu'ils peuvent faire. Pour voir comment ils peuvent parler entre eux sans que Chaminski s'en mêle. Et l'un d'entre eux s'appelle Davy et dit « Voilà, je vais analyser le problème. » Et tout d'un coup, il a une idée merveilleuse. Il se lève et il rentre dans la grotte. Et au fond de cette grotte, il y a un signe, un message spécial. Ce qui fait qu'il est spécial, c'est qu'on ne le trouve que dans cette grotte. Donc, il ressort de cette grotte et il allume un feu qui prend une couleur bleue. Donc maintenant, ils peuvent poursuivre leur conversation en toute tranquillité, parce que maintenant, elle doit écouter les messages qui sont uniquement les messages en bleu. Donc à chaque fois qu'elle recevra d'autres messages, elle ne va pas les prendre en considération. Donc si vous devez retenir quelque chose de cette histoire, c'est que le secteur DNSSEC envoie des messages bleus, nous donne l'opportunité pour les destinataires de savoir que ce message est sûr. Ce message bleu permet donc au destinataire de savoir qu'il s'agit du bon message. Sur ce, je vais donner la parole à Roy, qui va faire une présentation sur le service DNSSEC. Roy au micro. Bonjour à tous, je suis Roy Adams. Je vais vous parler du DNS, du DNSSEC. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Je sais qu'on l'a fait auparavant, mais d'une autre manière. Qui sait que nous avons des serveurs racines dans le monde? Bien. Qui a des notions de base du fonctionnement du DNS? Très bien. Alors, première diapo à l'écran, s'il vous plaît. Donc, voilà les normes. D'abord, la racine en haut. On délègue ça à UK. Puis, deuxième domaine, nick.ar, etc. Donc, on sait quels sont les serveurs de racine. Joe, je vais vous en parler après, n'a aucune idée du DNS. Il ne peut pas parler du ISP. Donc, l'ISP doit parcourir tout ce chemin, obtenir l'adresse. Et cette information est stockée pour une utilisation ultérieure. Donc, à ce moment précis, j'aimerais vous montrer comment on fait, on produit le DNS. Voilà les principaux éléments. Alors, la diapo précédente vous montrait le serveur racine, les bigband.com, etc., etc. Alors, je laisse le soin à mon équipe de régler le problème technique. Et Norm va jouer le rôle de l'utilisateur lambda qui essaie de naviguer et qui tape un URL, une adresse. Et tout ce qu'il va vous montrer ici, c'est ce qui se produit en général une fois que vous avez tapé Enter et avant que la page n'apparaisse. Donc c'est une très courte période de temps. Soyez assurés que même les problèmes techniques nous arrivent à nous. Parce que normalement, ça va beaucoup plus vite. Donc, nous avons l'utilisateur Joe qui se trouve là. Nous avons notre fournisseur de services Internet ici, le serveur de racine là. Je suis Com. Et voilà le Big Brand de Com. Donc, je vais passer le micro à Mike. Bien. Donc, je suis l'utilisateur Joe qui a régler ses factures et qui veut naviguer un peu. Je ne sais pas combien je dois régler pour les fournisseurs de services Internet. Il s'agit simplement de payer ma facture. Donc, je m'assois devant mon ordinateur. Je tape www.bigbrand.com. Merci, utilisateur Joe. Je suis un fournisseur de services Internet. La seule chose que je sais, c'est où se trouve la racine. On m'a programmé pour cela, uniquement. Donc, je vais demander à la racine, savez-vous où se trouve bigbrand.com? Non, excusez-moi, je ne sais pas où il se trouve. Je sais où se trouve .com. Mais vous devriez poser la question à mon voisin. Merci beaucoup. Hey, .com, je suis à la recherche de bigbrand.com. Savez-vous où je peux le trouver? Non. Je ne sais pas où se trouve www.bigbrand.com, mais je sais où se trouve 2.2.2.2. Merci. Écoutez, je cherche cette adresse. Savez-vous où je peux la trouver? Eh bien, effectivement, je sais où cette adresse se trouve. Elle se trouve à 2.2.3. Merci beaucoup. Joe, l'adresse est 2.2.3.bigbrand.com. Voilà, donc l'adresse web pour ma banque est la suivante et je peux maintenant procéder au paiement. Donc, la transaction est un peu plus rapide que cela, mais c'est un petit peu comme cela que ça fonctionne. Oui, vous le voyez ici. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est de vous montrer la chose suivante. C'est une motivation un petit peu derrière DNSSEC. Et on va faire la même chose.
Oh. I'm gonna sit down, do some more banking, Bill.
Bien, alors je reprends mon exemple. Je tape mon adresse, bigbrand.com, bigbank.com. Merci Joe. Vous voulez aller à Big Bank? Attendez, je vais chercher. Je vais demander au routeur. Est-ce que vous savez où ça se trouve? Non, excusez-moi, monsieur fournisseur de services Internet. Je ne sais pas où ça se trouve. Tout ce que je sais, c'est où se trouve .com. C'est 1.1.1. Merci. Bonjour monsieur.com, je cherche www.bigbank.com. Non, je ne sais pas où cette adresse se trouve, mais je sais où se trouve bigbank.com. C'est adresse 2.2.2. Merci beaucoup. Bonjour Big Bank, je cherche www.bigbank.com. Avez-vous l'adresse IP? Oui, je l'ai. L'adresse est 6.6.6. Parfait. Merci beaucoup. Et Joe, voilà l'adresse 6.6.6. Vous devez vous connecter là pour faire toute votre transaction en ligne. Merci. Et ainsi de suite. Donc, je crois que je suis en train de me rendre sur bigbank.com, mais chacun a sa propre adresse. Et donc, ma banque doit s'adresser à toutes ces personnes-là pour trouver l'adresse. Bien, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est tout ce que fait le DNS pour le DNSSEC et comment ça fonctionne dans les grandes entités. Et ça fait partie des différentes connaissances dans la hiérarchie qui ne partagent pas leurs informations, qui ne se connaissent même pas. Donc, on en revient à l'exemple de la fumée bleue. Il y a une chaîne de confiance et c'est là que le serveur partage des informations, des clés, mais c'est un petit peu comme la fumée bleue qu'il va partager. Donc il faut une chaîne de confiance. Oui, avant de passer au prochain exemple, il faut que je vous précise quelque chose. Vous vous souvenez de la diapo où nous avions Agreena à gauche et DNS Terms? Donc, Agreena, c'est celle qui reçoit. C'est une femme moderne qui est en conversation avec plusieurs serveurs. Et comme vous le savez, Agreena ne sait pas quel est le véritable serveur parce que toutes ces informations échangées peuvent avoir été contaminées. Donc, avec le DNSSEC, on va vous le montrer dans une seconde, Agreena est maintenant capable de distinguer entre les fausses informations, le faux serveur et les bonnes informations. Elle le fait avec la fumée bleue et le DNSSEC le fait avec les clés et autres et les signatures. Donc avec le DNS, il n'y a pas de réelle sécurité. Ce protocole a été créé en 82-83 avant même la création d'Internet. Et à l'époque, toute une kyrielle de chercheurs n'avait pas pensé à cet élément de sécurité et d'abus. Donc, il n'y a pas de sécurité. Et il s'agit donc de contamination d'espèces. Hein, et dans ce cas, vous avez ici l'adresse originale à gauche et à droite la fausse adresse. Donc, comment on fait cela avec le DNSSEC? Il s'agit d'un concept de signature numérique. Vous créez une paire de clés où il y a une clé publique et une clé privée. La clé publique, vous la donnez à toutes les personnes que vous voulez et l'autre, vous la réservez. La clé publique, étant donné que vous pouvez stocker tout ce que vous voulez sur le DNS, les adresses, etc., vous pouvez également stocker des clés sur le DNS. C'est pourquoi on l'appelle clé DNS. Lorsque vous signez le DNSSEC, vous créez ce qu'on appelle les signatures. Vous le faites avec une clé privée. Donc, on peut vérifier cela. Les signatures, ce ne sont qu'une série de bits qui peuvent être stockés sur le DNS également. Donc maintenant, on a des clés DNS sur le DNS et des signatures sur le DNS. Donc il faut qu'il y ait un lien entre toutes ces entités, les racines.com, bigbang.com et le lien entre la racine et com, et entre com et bigbang.com, c'est l'archive NDS, DNS, pardon. Et la clé racine DNS doit figurer pour que l'utilisateur sache qu'il s'agit d'informations sûres. Donc, le serveur racine dispose de ces informations et peut s'assurer que ces informations sont fiables. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au même niveau de connaissances, depuis que nous avons, étant donné que nous avons signé ces informations et qu'il y a cette chaîne de confiance entre la racine et .com, bigbang.com, on peut faire maintenant une distinction claire entre les informations fausses qu'on ne peut pas signer parce que l'attaquant n'a pas la clé privée que bigbang.com a, et on peut faire donc la distinction claire entre les informations dûment signées et celles faussement signées. Donc, tout ce que je viens de vous dire, on va l'appliquer au même schéma que je vous ai mentionné auparavant. Puis-je inviter de nouveau mes compagnons à venir me rejoindre ici ? Bonjour à tous, je suis la racine. D'abord, il faut signer la racine. Donc, je vais me signer moi-même. Me voici et voici ma clé. Maintenant, il faut que j'échange ma clé avec .com. Bonjour, est-ce que vous êtes réellement .com ? Oui, je suis vraiment .com. Dans ce cas-là, on peut échanger nos clés. Merci. Ça, c'est un échange de clés. Ce qu'on vient de faire, on va le refaire. Bonjour, je suis .com. Est-ce que vous êtes réellement bigbang.com ? Oui, je suis bigbang.com. Parfait. Alors, voilà votre distinction. Donc maintenant, l'adresse de bigbang.com est signée. Bien, on va parler des transactions maintenant en DNS, même chose, avec même exemple, mais cette fois-ci, nous avons la même transaction, plus de factures. Toujours un problème de facture. Donc www.bigbang.com. Monsieur Asby, vous voulez aller à bigbang.com, je ne sais pas où c'est, donc je vais poser la question autour de moi. Et j'ai besoin de parler à la racine. Je vais demander la clé publique de la racine. Je sais où elle se trouve. Et je lui pose la question, est-ce que vous savez où se trouve bigbang.com? Oui, je le sais. Bigbang.com, c'est 1.1.1. Et attendez, je vais signer cela pour vous. bien, j'ai vérifié la signature que vous m'avez donnée. Elle est en compatibilité avec la clé que vous m'avez donnée. Lorsque vous parlez avec lui, sa clé, c'est... Mais le chiffre est trop long. Merci. 1.1.1, bonjour.com. Je veux aller à www.bigben.com et je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais pas où www.bigben.com se trouve, mais je sais où bigben.com, il se trouve à l'adresse 2.2.2. Voilà la signature qui correspond à cette information et également la clé de bigben.com. Alors, les clés, signatures correspondantes, tout est en ordre. Très bien, il faut que maintenant que je demande à bigben.com, ou plutôt que je m'adresse à www.bigben.com. Moi, je connais la réponse à cette question, c'est 6.6.6. Merci beaucoup. Laissez-moi vérifier la clé. Non. C'est pas la bonne clé. Fichez-moi le camp. Merci beaucoup. Donc l'adresse est la suivante, 2.2.2.3. Et voilà la signature. Je vais vérifier. Parfait. Merci beaucoup. Coucou Joe, j'ai l'adresse. C'est 2.2.2 et les signatures correspondent. Merci, monsieur fournisseur de services Internet. Nous avons donc les bonnes informations qui correspondent à ce chiffre. Et la transaction va pouvoir fonctionner. L'important, c'est que l'utilisateur Joe n'a rien eu à faire. J'ai la même demande. J'ai fait appel aux mêmes outils. Donc, l'utilisateur n'a rien eu à faire de plus. Donc, c'est tout.
Thank you. And, oh yeah, and Dr. Evil, you have to...
Ah oui, il y avait le méchant docteur, Dr. Evil. Eh bien, merci à toutes et à tous. On a essayé d'être un petit peu divertissant. Je ne sais pas si vous verrez ça souvent à l'ICANN durant cette semaine, mais on veut rester très informel. On n'a pas encore posé de questions, mais c'est une session très informelle, donc n'hésitez pas à nous arrêter et à poser des questions. Levez la main, nous essaierons de vous aider, de vous répondre. Donc, ce que je veux vous expliquer dans ma présentation maintenant, c'est de vous donner des exemples plus précis des résultats de piratage qui peuvent exister sur le DNS. Oui, moi j'ai déjà une question. Après cette scénette que nous avons vue, j'ai vu qu'une personne avait un accent français assez prononcé et faisait tout cela en anglais. Le cas, est-ce qu'on doit utiliser l'anglais ou bien est-ce que cela s'applique aux chaînes internationalisées? Est-ce que tout se passe en anglais? Comment ça se passe? Eh bien, c'est supposé fonctionner avec toutes les données qui sont contenues dans le DNS, qu'elles soient internationalisées ou pas. C'est simplement des bits. Donc, vous pouvez utiliser d'autres langues, c'est simplement des chiffres. Donc pourquoi s'inquiéter un petit peu du DNS? Pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe beaucoup du DNS? À la base, le DNS, le contenu du DNS doit être tout à fait correct par rapport aux applications qui sont utilisées. Sinon, vous allez avoir des effets inattendus et néfastes également. Donc, les utilisateurs finaux de l'Internet utilisent véritablement le nom DNS mais l'infrastructure qui est sous le DNS, ses adresses IP, protocole Internet et ainsi de suite, doivent être au niveau, doivent fonctionner correctement si vous voulez que l'Internet marche bien. Vous utilisez donc ces adresses Internet pour faire bouger les différents bits sur l'Internet. Ça, c'est une autre manière de décrire le fonctionnement du DNS. Il y a donc des menaces de piratage au niveau du DNS, des attaques du DNS. Vous ne voulez pas pirater le DNS en tant que tel. Le DNS, ça ne vous intéresse pas. C'est important pour les personnes qui travaillent peut-être dans le DNS, mais c'est important pour les applications des utilisateurs finaux. Alors, qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a un piratage ? Eh bien, on peut dérouter un petit peu ces applications. Il y a de cela 5 ans, par exemple, il y a des logiciels qui sont sur l'Internet et qui vous permettent de faire du piratage. Il y a des universités qui apprennent aux étudiants à faire du piratage Internet, à être des cyberpirates. C'est un petit peu dommage, je crois. On en prend à ces étudiants à faire des codes de piratage du DNS. C'est quelque chose que peuvent faire ces étudiants. Donc, lorsque vous utilisez le DNS et le DNSSEC sur un site web, eh bien, vous pouvez utiliser les informations qui font partie du protocole pour aider les personnes à voir si on utilise bien le système de sécurité du DNS ou pas, le DNSSEC. Ce n'est pas si fréquent que cela. Il y a plusieurs sites qui l'indiquent. Nous avons cette capacité qui existe, cette fonctionnalité. Lorsque l'on modifie nos sites web montrent en direct le piratage d'une partie d'un site web. Voilà comment cela peut se passer. Vous avez les paquets d'informations. C'est un petit peu comme les nuages que l'on voyait au début de la présentation d'aujourd'hui. Et vous avez également la scénette avec l'utilisateur qui s'appelle Joe, qui envoie une demande à son fournisseur de services Internet. Et il y a un échange dans le réseau, un dialogue, il obtient une réponse et la machine de l'utilisateur Joe est en mesure de converser avec le serveur de la banque. Il faut qu'il y ait une réponse du DNS dans ce cas. Lorsque vous avez un butineur ou un navigateur qui est conscient de l'existence du DNS, là vous le voyez en haut, c'est coché, le DNSSEC est coché, vous pouvez voir les requêtes qui arrivent sur ces différents sites web qui ont la fonctionnalité DNSSEC. On va cocher donc cela. Si vous n'avez pas sur votre navigateur cette capacité, cette fonctionnalité DNSSEC, elle n'est pas connectée, elle n'est pas branchée, eh bien, vous avez ce site web, mais vous n'êtes pas sûr de sa validité. Donc, le Dr. Evil, le méchant docteur, le pirate informatique, hein, regardez, il est là, il peut intercepter le message. Il observe d'une manière ou d'une autre les échanges, c'est assez facile à faire en fait. Il observe la demande qui est effectuée par l'utilisateur et ce que fait ce pirate informatique, c'est que il se place au milieu. Comme vous le voyez, vous avez la réponse qui arrive plus lentement et c'est en fait le pirate qui va pirater la communication. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, s'il a la validation des NSSEC, il est capable de détecter que c'est une fausse réponse, qu'il reçoit une fausse réponse. Donc il ignore cette réponse. Le DNSSEC lui indique que c'est une fausse réponse qui n'est pas valide, qui est une réponse qui provient d'un pirate et qui ne provient pas de sa banque. Et l'utilisateur Joe, avec l'aide du système DNSSEC de surveillance, en quelque sorte, réussit à communiquer avec sa banque, à dialoguer avec le serveur de sa banque. Je n'ai pas mis tous les serveurs, toutes les machines, ça peut devenir beaucoup plus complexe, beaucoup plus de serveurs, évidemment, c'est une toile, c'est un réseau. Des questions dans la salle ? Oui, monsieur, allez-y. Oui, je m'appelle Hossan Hassan, d'Égypte, et j'ai une question. Je n'ai pas encore eu de bonne réponse à la question que j'ai posée déjà à plusieurs d'autres personnes. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, le DNSSEC et bâti, c'est un rapport entre la racine et des domaines de premier niveau comme .com et ainsi de suite. Mais si les clés dont on a parlé, s'il y a un piratage de ces clés, si c'est au niveau des fournisseurs de services Internet, au niveau de l'utilisateur final, moi, il me semble qu'il y a des adresses du serveur racine qui peuvent être piratées. Donc il y a un niveau, le piratage est possible. Et on définit une route, une différente, un chemin différent. Oui, je crois avoir compris votre question. Si vous êtes un opérateur qui utilise une autre racine qui n'est pas DNSSEC, maintenant, il y a un rapport avec le serveur racine. Et là, vous avez le système de résolution. Là, vous avez un piratage qui se déroule à ce niveau-là, au niveau même du fournisseur de services Internet, avant de sortir vers le serveur racine. Donc, est-ce que la question serait donc modifiée au niveau du fournisseur de services Internet? Les adresses IP, protocole Internet, ça peut être son serveur ou un autre serveur. Ça va sortir de l'écosystème des domaines et ça va passer à un autre serveur. Oui. Je vais tenter de vous répondre. Oui, allez-y, vous voulez prendre la parole? Oui, je vais tout d'abord répéter la question. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Si j'ai bien compris votre question, monsieur, qu'est-ce qui se passe si le serveur racine est compromis, l'adresse IP est changée et pointe vers non pas le serveur de l'ICANN, mais un autre serveur, pas le serveur de l'ICANN. Si la racine est compromis, il y a toujours le système de validation qui existe et qui rentre en ligne en compte avec ses clés du DNS. S'il y a les clés DNS, il y aura toujours cette procédure de validation avec la racine. S'il y a une racine alternative, les réponses seront fausses et il n'y aura pas de validation puisqu'il n'y aura pas les mêmes clés. Les clés ne correspondront pas. Non. Il y a un piratage qui est possible au niveau du système de résolution du FSI, du fournisseur de services Internet. Ça peut être entre le serveur racine et le domaine de premier niveau. Si ça pointe sur une base de données, sur un serveur qui est en dehors de l'écosystème du DNS, qui ne fait plus partie du DNS, qui n'appartient plus à la CAN, au serveur racine, Eh bien, à ce moment-là, avec un seul clic, vous allez en effet avoir le piratage comme on l'a vu dans la sonnette. Donc, regardons un petit peu l'écran. Et lorsqu'on parle du système de résolution, c'est... le système d'autorité et de résolution. Vous voyez ? Si les machines du DNS ne fonctionnent pas totalement, si c'est totalement compromis, si la sécurité du logiciel fonctionne bien sur l'ordinateur, les résultats sont imprévisibles. Et à ce moment-là, vous devez avoir confiance que votre FSI fonctionne à bon escient, fonctionne bien. Vous devez vous baser sur un système de fonctionnement professionnel. Un fournisseur de services Internet ne peut pas garantir que votre ordinateur soit sécurisé, que vous ayez tous les systèmes de sécurité sur votre ordinateur. Et ça, c'est très important pour le DNSSEC. Les machines des ordinateurs de base des utilisateurs doivent être solides au niveau de la sécurité avant de surfer sur l'Internet. Oui, votre système de résolution FSI, il peut vous mentir. En effet, vous pouvez utiliser votre propre système de résolution sur votre ordinateur. C'est possible. Il y a des logiciels qui peuvent être installés sur votre ordinateur personnel pour avoir votre propre système de résolution et ainsi assurer la validation de ces clés et de ces dialogues. Je crois que c'est une bonne idée d'avoir faire cela, parce que ça vous permet d'avoir plus confiance, vous n'avez pas besoin de vous reposer totalement sur votre fournisseur de services Internet. Et en fait, si vous regardez les navigateurs que j'utilise sur cette illustration, eh bien, c'est ce que je fais d'ailleurs sur mes ordinateurs. Ce n'est pas essentiel de se baser sur la sécurité de votre fournisseur de services Internet, mais la plupart des personnes pourraient le faire plus rapidement sur le fond, d'ailleurs, de cette manière, font confiance à leur fournisseur de services Internet pour faire beaucoup. Mais il y a possibilité d'avoir un système de sécurité et des résolutions sur son propre ordinateur. Donc, ça répond à plus ou moins à votre question, monsieur, je l'espère. Oui, je comprends le problème, mais pour être honnête avec vous, j'ai eu du mal à obtenir la bonne réponse. Comment sécuriser l'utilisateur de base, l'utilisateur final? Très bien, eh bien, je crois que nous allons passer à d'autres questions. Oui, nous allons continuer avec notre présentation PowerPoint, dit Raimundi Parsons. Et donc là, nous avons un nouveau navigateur qui, un petit peu comme Firefox, si vous connaissez, et là, vous avez une capacité DNSSEC. Donc, il n'y a pas d'informations piratées. Mais en bas, regardez les adresses. Les adresses sont les mêmes. On demande donc les mêmes informations, mais les résultats ne sont pas les mêmes. On n'arrive pas à la même page. Là, vous avez des informations piratées qui nous dit que Steve Crocker admet que le DNSSEC ne va pas résoudre la faim dans le monde. Et ça, c'est un site pirate. C'est évidemment pas le site de l'ICANN. Donc, là, regardez une page, regardez comme c'est complexe, cette toile, ce réseau, avec toutes ces lignes. Il y a beaucoup de demandes DNSSEC qui existent. Et ça a 5 ans à peu près. Regardez aujourd'hui, c'est comme ça à quoi ressemble CNN.com, ressemble à cette architecture. Donc, il y a beaucoup de points de demande. Et ce qui est important, c'est d'avoir la zone de données du DNS. C'est ça qui compte. Il faut qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit la bonne. Parce qu'il s'agit d'un système DNS de traduction des noms en adresse du réseau. Le contenu DNS est extrêmement important pour les utilisateurs de l'Internet. Voilà une autre image que je pourrais vous proposer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas parler du flow de données, mais vous avez sur le site web tout c'est transparent. Donc vous pouvez utiliser cette présentation si vous le désirez. Donc là, il y a une demande. Et ensuite, on a le DNS sec, où que vous soyez dans la chaîne de dialogue, au niveau du fournisseur de services Internet, au niveau du système de résolution, vous avez vu .com, vous avez vu Big Bang, vous avez vu le serveur racine, vous avez vu tous les différents rôles que ces entités jouent dans le DNS. Et à ce niveau, la recommandation générale est que vous devriez faire le même type d'activité lorsque vous utilisez le DNSSEC. C'est important pour les informaticiens qui travaillent dans des entreprises, par exemple. Si vous êtes un opérateur de TLD, un opérateur de registre, un gestionnaire de registre, eh bien, vous devez absolument travailler avec des informaticiens très compétents. Si vous êtes une entreprise, si vous faites appel à des sous-traitants, vous devez vous assurer que ces sous-traitants soient en conformité avec le DNSSEC. C'est très important. À moins que vous vouliez bâtir une expertise DNSSEC dans votre propre organisation. Donc, si vous êtes un utilisateur final, vous voulez utiliser le DNSSEC aujourd'hui, eh bien, si vous utilisez les Macintosh, il y en a de plus en plus, les Apple, c'est très facile, c'est une plateforme très facile à utiliser. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le navigateur Bloodhound et l'utiliser, il est très très bien pour le DNSSEC, c'est très facile d'emploi. Donc, la zone de données, la capacité, la qualité de la zone de données est absolument assurée par le DNSSEC et vous vous assurez d'avoir les bonnes informations, d'avoir accès aux bonnes informations grâce à ces clés DNSSEC, grâce à ce système de validation qui permet de limiter les attaques sur le contenu des DNS. Aux États-Unis, vous avez Comcast, par exemple, qui fait beaucoup de téléphonie aux États-Unis, a une validation DNSSEC sur tout leur système de résolution pour 18 millions de consommateurs, de clients. Donc c'est un énorme FSI, fournisseur de services Internet. Vous pouvez toujours le faire. Moi, je suis avec Comcast et cela me satisfait. Oui, j'avais oublié cela. Google. Donc, 8.8.8, 8.8.4.4, 8.8.4.4 et 8.8.8.8 font la validation DNSSEC. Donc, entre le système de validation et votre ordinateur, vous avez ce lien grâce à Google. Google qui valide au niveau des DNSSEC. Donc ça, c'est une illustration simplifiée. Vous devez avoir une signature des données, comme on l'a vu, et elle doit être validée quelque part, que ce soit sur votre ordinateur ou que ce soit sur votre serveur récursif de validation. Donc, les principes généraux dont nous avons parlé aujourd'hui. Oui, ah, Olaf, vous avez une question? Oui. Jeff Houston de Epinic a fait de la recherche et a regardé combien un échantillon de population était protégé par le DNSSEC au niveau mondial, eh bien 8% des utilisateurs Internet sont protégés par le DNSSEC lorsqu'ils naviguent sur l'Internet. Donc, ça c'est grâce à l'infrastructure Google principalement, mais c'est un chiffre significatif, un nombre significatif d'utilisateurs de l'Internet qui sont protégés par le système DNSSEC en tant que clients. J'avais oublié ces chiffres, ils sont intéressants. Où que vous soyez, quel que soit votre système de DNS, de nom de domaine, eh bien, vous devez avoir une approche générale pour le DNSSEC et vous assurer, et ça c'est un aspect important, que qui que ce soit votre prestataire de service, fournisseur Internet, assurez-vous que vous demandez un soutien DNSSEC, parce que durant de nombreuses années, il y a eu beaucoup de fournisseurs de services qui se pose la question, est-ce qu'il y a véritablement une demande pour le DNSSEC ? Donc c'est pour cela qu'il faut demander à votre prestataire de service Internet d'avoir justement une capacité DNSSEC. Voici notre présentation, les informations que nous voulions vous transmettre aujourd'hui. Et maintenant, nous allons ouvrir le débat. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser. Je vous ai montré ce piratage. Nous avons vu même dans sa sonnette le pirate informatique. Est-ce que vous voudriez que ce soit véritablement fait? Nous pourrions avoir un réseau sans fil et pirater votre ordinateur. Ça vous intéresserait? Oui? Oui, ça peut vous intéresser. Parce que si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous pouvons le faire lors de la prochaine réunion ICANN peut-être. C'est une réalité, on peut véritablement pirater, rentrer dans un ordinateur. Donc, des commentaires, questions, madame? Oui, j'ai une question, pas un commentaire. On peut poser des questions? Absolument, madame, allez-y. Je m'appelle Nora et je suis une utilisatrice, évidemment. Je suis boursière également de l'ICANN et il y a ces systèmes donc de sécurité du DNSSEC. J'aimerais savoir si la même chose s'applique aux applications. Parce que très souvent, on utilise des sites web. Maintenant, on utilise des applications plus que des sites web. On utilise beaucoup moins de sites web, mais beaucoup plus d'applications. Est-ce que les applications ont une couche supplémentaire de sécurité? Est-ce qu'elles sont DNSSEC? Parce que c'est plus dangereux d'utiliser des applications que des sites web protégés. Donc, je crois qu'on peut vous le montrer dans notre présentation. Oui. Un petit peu avant. Oui. Voilà. Là, vous avez un exemple de piratage. Donc, vous avez un serveur DNSSEC. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'applications qui sont conscientes du système DNSSEC, mais c'est très utile de les avoir. Vous pouvez voir le contenu. Vous pouvez voir le bon contenu. Et pour cela, vous avez besoin d'avoir des applications qui fonctionnent avec le DNSSEC. Et on y travaille beaucoup. Il y a une programmation pour les applications, il y a une interface qui est en train d'être développée, qui tente justement d'avoir pour les applications un système de sécurité DNSSEC. Moi, j'ai interprété votre question un petit peu différemment. Donc, les applications qui ne sont pas basées sur deux sites web avec votre smartphone, votre iPhone, le DNSSEC est indépendant de l'application. Donc, si on utilise le DNS dans l'application et votre système de résolution de votre prestataire de service Internet est DNSSEC, eh bien, toutes les applications en bénéficieront beaucoup. J'espère que cela répond à votre question.
Oui, est-ce que je peux apporter un autre point de vue? Lorsque vous utilisez l'Internet, lorsque... En fait, tout ce que vous faites dans la vie, la façon dont vous l'organisez, vous utilisez essentiellement le DNS, que ce soit votre calendrier, les actualités, envoyer un mail, ou lorsque vous passez un appel par Internet. En fin de compte, tout fait appel à DNS comme une ressource pour arriver quelque part. Et tous ces éléments d'attaque, de menace, sont importants. Et si vous utilisez le DNSSEC, vous faites appel à une autre couche de sécurité pour toutes ces applications qui ne sont pas forcément des choses que vous introduisez ou que vous utilisez, mais qui font appel au DNSSEC. C'est la même réponse, mais formulée différemment. Merci. Avez-vous un micro ? Oui. C'est une question à distance. Pouvons-nous la poser ? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Nous avons une question à distance de Adebumi Akimbo. Veuillez excuser ma prononciation. La question est la suivante. Comment est-ce qu'un CCTLD déploie et met en œuvre un DSSEC ? Comment s'assurer que cela fonctionne et quelles sont les parties qui ont besoin de participer et d'être impliquées ? Oui, en fait, j'ai travaillé moi-même au CCTLD et on a procédé à cet exercice. Mais sachez que c'est une question très vaste. Et pour y répondre, j'aurais besoin de beaucoup de temps. Mais il n'y a rien de nouveau ici. Beaucoup de codes pays, il y a beaucoup d'informations à ce sujet, surtout des entreprises russes. Et ce qu'il faut faire, c'est signer votre zone, voir si votre serveur fonctionne bien, procéder à beaucoup d'épreuves, de tests. Parce que cela veut dire que si vous avez d'autres personnes qui authentifient, il vaut mieux que ce soit correct. Donc peut-être qu'il y a 10 ans, c'était quelque chose de très difficile à faire, mais maintenant, il y a beaucoup d'outils, d'informations, de documents à notre disposition, et beaucoup de liens qui contiennent des informations à ce sujet. Peut-être que Ross veut intervenir là-dessus. Oui, je voulais souligner le fait que près de un tiers des TLD sont signés dans la zone racine maintenant, et ce chiffre continue d'augmenter. Et avant, je vous ai dit que quelle que soit la fonction du DNS aujourd'hui, que vous soyez un fournisseur TLD, si vous êtes détenteur ou titulaire, partenaire ou opérateur, peut-être que vous avez déjà un partenaire de registre qui est d'ores et déjà à même de faire un DNSSEC, et donc ça ne sera pas difficile de parler avec votre partenaire s'ils peuvent faire un DNSSEC pour votre zone. Ou peut-être, comme je l'ai dit, vous allez devoir faire la planification et la mise à l'épreuve avant de faire fonctionner ce DNSSEC. Question là-bas. Oui, je vous écoute. Est-ce que le DNSSEC a été utilisé pour les emails ? Parce que 40% des emails dans le monde sont des spams. Et je travaille pour beaucoup d'entreprises en tant que consultant qui envoient des centaines de millions d'emails. Et les bons mails ne passent pas le filtre des spams. Je crois que c'est Roy qui en a parlé avant. Toute application qui fonctionne sur une machine fonctionnant avec le DNSSEC utilise ce système. Donc, à l'heure actuelle, il y a eu une mise en place d'une application qui a fait appel à FTP et qui peut voir si le DNSSEC a été utilisé ou pas. Mais ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on travaille sur le IETF, sur la technologie en conjonction avec le DNSSEC qui va permettre de renforcer les liens SMTP. Merci. Pour les emails, il existe ce qu'on appelle le DIMA, DICON. Et cela permet d'utiliser tout type de mécanisme de sécurité et en particulier le DNSSEC. Toutefois, et j'adore cette citation, même si ce n'est pas la mienne, le DNSSEC est une technologie qui ne résout qu'une partie du problème. Une partie du problème. Si les mails spam utilisent ce système DICON, alors on ne va pas pouvoir résoudre le problème dans son ensemble. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur, oui, je suis de l'UPU. On s'est déjà rencontré en Italie à cette conférence. Merci de votre explication très simple d'un sujet très complexe. J'ai une série de questions que j'aimerais vous poser. La première, Point Poste est totalement DNSSEC et c'est un défi pour notre communauté, surtout en tant que... étant donné que le GTLD doit être mis en œuvre en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et il y a une adoption très lente dans l'infrastructure et dans la zone. Donc l'un des défis qui se pose à nous, et l'une des questions que j'ai à vous poser, c'est de quelle manière procéder pour adopter davantage cette infrastructure dans ces pays. Que pouvons-nous faire pour encourager la diffusion de cet outil? Deuxièmement, comment, en tant qu'utilisateur, puisque je suis assis en face de mon ordinateur, comment, en tant qu'utilisateur, puis-je me sentir plus à l'aise avec l'Internet? Comment puis-je être sûr que c'est un espace sûr? Et c'est une question que beaucoup d'utilisateurs se posent. Comment être sûr que c'est un environnement sûr? Comment leur faire ressentir cette sécurité et cette commodité? Parce que je crois que c'est l'un des principaux défis. Alors, je vais tenter de répondre. Mais d'abord, je vais reformuler la première question en la rendant un peu plus générale. Comment aider à l'adoption du DNSSEC dans les domaines de deuxième niveau? Oui, j'ai déjà tous les domaines qui sont signés. Donc, la question est de savoir comment les titulaires de ces domaines ont accès au DNSSEC pour les faire signer. J'ai déjà donc ce contrat avec mon opérateur de registre. Donc, comment faire pour qu'ils aient cette fonctionnalité? Alors, vous posez la question des noms sous ce point poste, c'est ça? Oui. Alors, les opérateurs de registre sont prêts pour point poste, mais quelle que soit la personne qui opère, que ce soit un pays, et je crois que c'est très courant dans votre cas de point poste ou une autre entité, si il n'y a pas de mandat politique pour cela, alors les choses se compliquent. Parce que comme Roy l'a dit, il y a beaucoup d'outils à notre disposition. Donc, il s'agit de savoir qu'ils existent et savoir où les trouver. Et si les gens au niveau suivant ont l'expertise suffisante, de le faire. Mais pour faire fonctionner le DNS aujourd'hui, que ce soit un service sous-traité auprès d'un autre fournisseur, alors il faut trouver, il faut voir si cet opérateur est capable de faire fonctionner le DNSSEC, et sinon il va devoir s'adresser à un autre fournisseur. Parce que les opérateurs essaient de défendre leur part du marché en disant qu'ils savent faire fonctionner le DNSSEC. Donc il s'agit de les faire avancer sans avoir recours à la carotte et au bâton. Deuxième aspect de la question, par rapport à la première question, la Suède et les Pays-Bas qui ont été pionniers dans l'adoption du DNSSEC, je crois que l'un des motifs de leur succès, c'est qu'il y a un peu de marketing et de promotion dans l'explication de ce succès. Deuxième question, comment est-ce que l'utilisateur final peut bénéficier de tout ce qui concerne le DNSSEC? Comment est-ce que l'utilisateur peut voir ce qui se cache derrière tout cela? À l'heure actuelle, dans la production, il n'existe rien de tel. Donc, les utilisateurs finaux ne peuvent rien voir. Il n'y a rien à voir. Donc, s'il y a un déploiement de la part des fournisseurs de services Internet, il s'agit de mécanismes secrets. Et j'ai entendu cet après-midi qu'on parlait d'un projet qui était mené avec des domaines de premier niveau afin de mettre en place un mécanisme pour voir les utilisateurs. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce sujet?
Oui, tout à fait.
Je suis intervenue un certain nombre de fois sans me présenter. Je suis Paul, je travaille pour Phonelabs, qui travaille avec des gens comme Ross dans une petite communauté depuis plus de 10 ans maintenant pour examiner le DNSSEC, le déploiement du DNSSEC et voir comment avancer. Concernant ce que vous venez de dire, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce que vous disiez en dernier. Comment quelle est l'interface avec l'utilisateur? Ça n'est pas mon domaine de spécialisation. Les programmes actuels d'interface ne nous offrent pas cette capacité. Et au sein de l'ITF et de toute une série de personnes qui travaillent là-dessus, on essaie de renforcer cette capacité, mais on n'y est pas encore. Mais je préfère ne pas intervenir ici parce que j'ai un autre point de vue par rapport à votre question. Maintenant, quel type d'innovation avons-nous besoin pour faire la même chose au niveau mondial? Comment innover par rapport à la structure essentielle de l'Internet? Si vous pensez à l'innovation d'une manière générale, il y a des experts en marketing dans les années 60 qui se sont penchés sur ce qui motive les gens à prendre une décision. D'abord les avantages, la complexité ou la simplicité d'une innovation, la compatibilité, la mise à l'essai, etc. Et cette capacité d'observer une innovation, il s'agit de cela précisément. Parce qu'il y a, il faut voir quel est l'avantage d'utiliser cela. Le DNSSEC, c'est une technologie qui est nouvelle encore. Donc il y a tous ces problèmes que je viens de décrire, qui entraînent tous ces avantages, qui sont difficiles à saisir. Mais c'est un travail de longue haleine. On parle davantage à long terme. Et il s'agit d'une sécurité à long terme pour une structure mondiale. Donc, ça n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour vous individuellement à court terme. C'est quelque chose qui vous permet de protéger le bien-être général de l'Internet. Si on pense au niveau collectif, on devrait se demander comment s'assurer que la complexité et la compatibilité soient réduites en créant des outils, par exemple des outils pour les signatures qui sont disponibles dans beaucoup de projets. Et en effet, un autre aspect de cet avantage, c'est en créant des mesures d'encouragement. En Hollande, vous obteniez une subvention si vous signiez votre domaine et vos droits d'enregistrement s'en trouvaient diminués. Donc, il s'agissait d'encourager les entreprises qui avaient des centaines de noms de domaine, et ça, c'était très intéressant. Donc, au niveau des opérateurs de registre, il faut s'assurer que la communauté d'utilisateurs ont un accès facile à ces outils et que vous pouvez leur offrir des mesures d'encouragement financier et autres. Mais ça, c'est en pensant au bien-être collectif. J'espère que je vous apporte peut-être un point de vue moins technologique par rapport à votre question. Oui, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que vous avez dit sur l'infrastructure. Et c'est une politique 100% DNSSEC pour sécuriser les transactions. Mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit, parce que c'est l'utilisateur final qui va finalement promouvoir cette adoption. Mais effectivement, c'est une question intéressante qui mérite d'être approfondie. Oui, il y a d'autres réunions qu'on va avoir mercredi. Et beaucoup des thèmes qui ont été abordés vont être de nouveau abordés de manière plus détaillée et approfondie. Comment faire en sorte que toutes ces choses-là, on les ramène au niveau de l'utilisateur? Vous pourrez en apprendre un peu plus lors des prochaines réunions, mais c'est quelque chose qui implique un changement dans les informations vis-à-vis de l'utilisateur. Y a-t-il d'autres questions? À la fin, au bout de la salle, pardon. Oui, une question de Carol Watson à distance. Quel est le changement nécessaire de la part des fournisseurs des systèmes Internet pour dans le monde, il y a des millions de DNS publics. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris la question, dit l'orateur. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, quel est le changement des fournisseurs de services Internet afin de promouvoir l'adoption de DNSSEC dans les systèmes de résolution? Alors, si j'ai bien compris la question cette fois-ci, je crois que la question était la suivante. Que faut-il faire pour que les opérateurs de résolution dans le monde entier mettent en œuvre, commencent à utiliser le DNSSEC? C'était la question? Bien. L'un des aspects importants, c'est qu'il y a une demande qui existe. Tout le monde ici dans cette salle peut rentrer dans vos pays respectifs et voir ce que font les fournisseurs de services Internet. S'ils ne font pas de DNSSEC, parce que 8% c'est un bon taux d'adoption, mais on est loin des Mais ça veut dire que 92% ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Il s'agit de faire savoir cela. Donc, la demande, c'est la meilleure des choses, si, s'agissant d'un environnement compétitif. Dans d'autres environnements, dans certains pays, il y a encore un contrôle du gouvernement et une influence du gouvernement. Donc, les gouvernements devraient travailler pour promouvoir l'adoption du DNSSEC. Oui. Ce que beaucoup ont fait, c'est que cela implique un petit peu de travail supplémentaire, mais pas beaucoup finalement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire à vos utilisateurs que vous leur rendez un service extraordinaire en sécurisant leur travail. Donc vous dites aux utilisateurs qu'il vous importe, que vous voulez que leur espace Internet soit sûr. Donc vous donnez au DNSSEC une valeur ajoutée. Et les utilisateurs vont avoir tendance à vous choisir vous, puisque vous préoccupez d'eux plutôt que d'une autre personne qui ne s'en préoccuperait pas. Alors c'est une tactique de vente, mais certains fournisseurs de services Internet le font. Si vous ne le faites pas et s'il arrive quelque chose à vos utilisateurs, on va vous demander pourquoi vous ne le faites pas, pourquoi vous ne vous préoccupez pas de leur sécurité. Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des risques juridiques de poursuite. Oui, Joyce. Oui, je peux m'assurer que j'ai bien compris cette question et peut-être que vous pourriez préciser. Par rapport aux acteurs du DNSSEC, s'il y a signature de la zone racine et que le fournisseur de services Internet signe également, donc tout le domaine est signé, alors, qui d'autre intervient ? Par exemple, dans mon pays, c'est une société du câble qui permet d'avoir accès à Internet. Donc, est-ce qu'ils doivent mettre en place ce DNSSEC ? Je pensais que les serveurs de NEM devaient être sûrs. Donc, il s'agit de leur mâcher le travail un petit peu ? Oui, on va préciser un petit peu les choses, Joyce. Vous avez vu que toute la première partie de ce qu'on vous a montré, c'était pour voir les fonctions du DNSSEC. Et monsieur fournisseur des services Internet était celui qui faisait les allers-retours et allait poser la question. Et après cela, le méchant a pris le message et l'a envoyé au bout de la file, mais il aurait pu l'envoyer n'importe où. S'il n'y a pas un système de résolution qui valide, alors l'utilisateur ne pourrait même pas savoir si la donnée a été validée. Donc, le rôle qui est important ici pour les FSI ou pour les utilisateurs finaux, c'est qu'il y ait validation des demandes. D'abord, il faut qu'il y ait signature. Vous avez raison. Mais s'il n'y a pas de validation de les informations correctes de cette demande, alors le système ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez cette distinction ? pas tout à fait. Mais lorsque le domaine est signé, vous parlez des applications API. Est-ce qu'il faut également signer ces applications outre le domaine? Non. Les applications n'ont rien à savoir du DNSSEC. Tant que le système de résolution du DNS fonctionne, que ce soit sur l'ordinateur de l'utilisateur final ou du côté des fournisseurs de services Internet. C'est mieux s'ils le font, mais ils n'ont pas à savoir cela. Y a-t-il d'autres questions? Au fond de la salle, s'il vous plaît. Bonjour, Craig de Dominica. Je sais lorsque vous avez montré le piratage. Le pirate, donc, ne faisait pas fonctionner de DNSSEC. Ma question est la suivante. Que se passe-t-il si vous avez un serveur hôte qui n'a pas de DNSSEC et tous les autres l'ont? Est-ce qu'il y a une méthode compatible avec le DNSSEC? La conception du DNSSEC fait que l'on adopte les choses qui ne sont pas signées, tout comme celles qui sont signées. Donc, si pour obtenir la réponse aux demandes du DNS, alors on revient au point où il n'y a pas de signature DNS, et ça, on peut clairement l'identifier dans le protocole et dans la façon dont ce protocole fonctionne. Et c'est reconnu comme n'étant pas signé, et donc l'information va être traitée. Ça ne va pas être rejeté si ce n'est pas censé être signé. Oui. Augustine, je travaille à NIC Argentine. Donc je pourrais concevoir une application qui détecte chaque étape de la chaîne. Je fais une application pour passer des appels. Et je veux que le programme me dise que la connexion est DNSSEC. C'est ce que je peux le détecter? Oui, il y a des applications sur les portables, les téléphones portables maintenant. Donc c'est quelque chose de faisable. Si les données sont signées, elles seront validées. Donc il s'agit de voir quelle est la base de code, quelle est l'application, et d'écrire les codes. Oui, oui, c'est faisable. Et nous aimerions que beaucoup d'autres gens fassent ce genre de choses. Si vous avez besoin d'aide, c'est une communauté qui est tout à fait disposée à aider. On aide ce type de choses, surtout les personnes qui sont disposées à faire davantage dans l'environnement DNS. Ça n'est pas une chose simple, mais si vous en savez un peu plus sur cette plateforme, n'hésitez pas. Bien, Ross, il est 18h30 passé. On peut peut-être prendre une dernière question. Julie, il y a une personne ici derrière le pilier qui essayait d'attirer votre attention pour poser une question. Oui, j'ai une question. Y a-t-il un rapport entre le DNSSEC et le SSL. Oui, il s'agit de deux protocoles indépendants qui se complètent. L'un travaille sans l'autre. Vous avez plus de sécurité si vous utilisez ces deux protocoles, mais il s'agit de deux protocoles qui peuvent fonctionner en même temps sur une même machine. Mon ordinateur n'est pas allumé, mais je le fais moi-même. C'est une très bonne chose. Une sécurité multiple à différents niveaux. C'est une excellente chose. Ai-je répondu à votre question? Oui. Merci. Bien, je crois que nous avons fini cette réunion. Excellente réunion. J'espère que ça se répétera. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour notre prochaine réunion. Merci.
Back to Julie. It's still a live mic.